RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Pour la rubrique suivante, vous pouvez écouter le magazine culturel qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Indonésie est optimiste et loue en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le concept Indo-Pacifique sera discuté lors de la visite bilatérale du Premier ministre Narendra Modi. Les priorités de l'Indonésie, si elle est élue, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. 60 policiers philippins apprennent l'indonésien. L'état unitaire de la République d'Indonésie est final. Chérami nous présente maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, est optimiste que l'Indonésie serait élue en tant que l'un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'en 2020. Selon la ministre, jusqu'à présent, l'Indonésie a une grande contribution et un bilan très réel dans le soutien de la paix et la résolution des conflits dans le monde. C'est ce qui a été déclaré par Retno Marsudi aux journalistes après avoir assisté à Iftar avec les ambassadeurs des pays amis au ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie à Jakarta.
Insya Allah, kita berdoa terus ya. Insya Allah, kita optimis. Mohon doanya.
Insya Allah, nous prions toujours. Insya Allah, nous sommes optimistes. Donc, si nous regardons tous les enregistrements qui existent, bien sûr dans la telle élection, nous voyons notre bilan, la contribution de tout ce que nous donnons au monde pour la paix, la prospérité, et nous espérons que tous les enregistrements sont correctement enregistrés et aura une incidence ou des excuses pour que les États membres des Nations Unies votent pour l'Indonésie. Selon la ministre Retno Marsudi, jusqu'à présent, l'Indonésie se prépare à faire face aux élections qui auront lieu le 8 juin. Selon le plan, la délégation indonésienne qu'il dirige partira pour New York, les États-Unis, le 3 juin pour la préparation avant le jour de scrutin. Avant les élections, la délégation indonésienne continuera à maximiser les lobbies avec de divers pays afin d'apporter un soutien à l'Indonésie. Le concept Indo-Pacifique introduit par l'Indonésie dans plusieurs pays sera l'une des discussions d'une rencontre bilatérale entre le président de la République d'Indonésie Joko Widodo et le premier ministre de l'Inde Narendra Modi le mercredi 30 mai à Jakarta. Les deux pays partagent des similitudes dans le concept Indo-Pacifique. Cela a été transmis par le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie à l'équipe des médias après la cérémonie de rupture avec les ambassadeurs des pays amis au ministère des Affaires étrangères, l'Indonésie, lundi 28 mai à Jakarta.
Indo-Pasifik, kita akan lanjutkan komunikasi kita. Jadi Indo-Pasifik, Presiden sudah menyampaikan.
Dans Indo-Pasifik, nous continuerons notre communication. Le président avait déjà soumis au Premier ministre Modi en janvier, après quoi il y a eu quelques communications. En principe, nous ne voyons aucune différence dans le concept du problème Indo-Pacifique et je pense que la réunion sera également discutée sur la question de l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique est devenu l'un des objectifs de renforcement de la politique étrangère de l'Indonésie en 2018. Le concept de l'Indo-Pacifique a été repris depuis 2013 et l'Indonésie se concentrait sur le potentiel dans l'océan Indien. Le concept Indo-Pacifique indonésien repose sur trois principes de coopération, à savoir une coopération transparente, ouverte et inclusive, conformément au droit international. L'Indonésie veut toujours utiliser l'ASEAN comme la centralité qui construit cette architecture Indo-Pacifique. Par conséquent, l'Indonésie veut utiliser l'approche du bloc de construction en renforçant la coopération des pays côtiers de l'océan Indien. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie avait un certain nombre de priorités si elle est ultérieurement élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. Elle a expliqué que la contribution de l'Indonésie dans le domaine de la paix et du renforcement des organisations régionales était inclus dans ses priorités.
Ada beberapa prioritas kita. Pertama tentunya kan tagline kita a true partner for peace.
Il y a certaines de nos priorités. D'abord notre slogan, un véritable partenaire pour la paix, dont nous continuerons notre contribution au domaine de la paix. Et ensuite, les questions de maintien de la paix, les opérations de maintien de la paix, etc. La seconde, nous voulons renforcer les organisations régionales, car on voit que dans le cas d'un développement très dynamique, le plus tôt d'entrée est les organisations régionales. Par conséquent, il faut renforcer les communications, les contrats, les relations entre les organisations régionales et l'ONU. Madame Retno Marsudi a également expliqué la réalisation des objectifs de développement durable et la relation avec la question de la paix qui est également une priorité de l'Indonésie si elle est élue en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon lui, ODD ne seront pas réalisés si la paix ne peut pas être réalisée. Retno Marsudi a ajouté une autre chose qui est également une priorité de l'Indonésie était un crime transnational. L'Indonésie s'efforcera à renforcer la coopération entre les pays du monde pour lutter contre des crimes. L'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra le 8 juin à New York, les États-Unis. L'Indonésie entre dans le groupe Asie-Pacifique et se battra avec les Maldives pour obtenir le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. 60 policiers philippins à Mindanao participent au cours de langue indonésienne pour renforcer les relations et la coopération entre l'Indonésie et les Philippines. Il a été dit par le consul général d'Indonésie à Davao City, M. Berlian Napitupulu, dans une déclaration écrite reçue par Antara lundi. Selon lui, la langue indonésienne est importante d'être étudiée par les membres de la police aux Philippines parce que l'Indonésie et les Philippines sont les voisins et frères. L'Indonésie est également importante afin d'établir les relations et la coopération entre les deux pays dans le cadre de Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines de la zone de croissance en Asie de l'Est. Parce que l'Indonésie est semblable à la langue malaise, tant utilisée par les gens de la Malaisie et Brunei Darussalam. Il a dit que l'indonésien était l'une des plus grandes langues dans le nombre d'utilisateurs dans le monde. Environ 300 millions de personnes utilisent la langue indonésienne. ASEAN, y compris le BIMPEAGA, utilise la langue malaise, que beaucoup de similitudes avec l'indonésien, et a également des similitudes avec la langue locale de Mindanao. Cependant, le coordinateur de cours indonésien, Enda R. Yuliarti, a déclaré que depuis 2017, le consulat général d'Indonésie à Davao City organise des cours et invite les professeurs indonésiens pour les locuteurs étrangers du ministère de l'Éducation et de la Culture. Kiai Haji Ma'ruf Amin, président du Conseil des Ulama Indonésiens ou MUI, a affirmé que l'état unitaire de la République d'Indonésie était final comme l'accord définitif de tous les éléments de la nation, de sorte que cela ne puisse pas être réexaminé. C'est ce qu'a déclaré Ma'ruf Amin lors de l'ouverture de Ta'aruf et du dialogue de la nationalité du directeur de MUI et du centre incubation pour les affaires de la charia à Pontianak lundi. Il expliquait que la finale de l'état unitaire de la République d'Indonésie basée sur l'accord et charte de Jakarta, de sorte qu'il devient préambule de la Constitution 1945. Le niveau pluraliste de l'Indonésie est très élevé et devient la tâche de l'État pour la protéger. Ma'ruf Amin a invité les sentiments des musulmans et de la nation compatriote à se fortifier. Chermis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et un petit titre, sommet de la Corée Nord et des États-Unis entre la préparation et les étapes de diplomatie. Bien qu'il y ait eu une guerre nerveuse à travers des déclarations sévères, il semble que les États-Unis et la Corée Nord continuent la préparation pour la tenue du sommet. Des efforts de préparation et des approches pour des pourparlers entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La déclaration a été faite par le porte-parole du département américain des affaires étrangères, Heather Nauert, à Washington. Nauert a indiqué lundi 28 mai qu'une délégation des États-Unis se trouvait à la frontière de la Corée Nord et de la Corée Sud pour s'entretenir avec des responsables nord-coréens. Il est dit que les deux parties continuent de se préparer à une réunion entre le président des États-Unis et le leader nord-coréen. Auparavant signalé, un certain nombre de fonctionnaires sud-coréens ont même visité la Corée Nord, rencontré le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères. En plus, à la Corée Nord et à la frontière des deux Corées, la préparation de la possibilité du sommet se fait également en visitant Singapour, qui devrait être le lieu du sommet. La visite à Singapour a été menée par des responsables américains et nord-coréens. Les efforts préparatoires pourraient signaler que Washington et Pyongyang sont toujours déterminés à reprendre les pourparlers, bien que les déclarations diplomatiques ne puissent que les réchauffer. L'un des alliés des États-Unis, le Japon, a publié une déclaration sur la Corée Nord. Dans une conversation téléphonique entre Washington et Tokyo, Donald Trump et le premier ministre Shinzo Abe ont accepté de faire pression sur la Corée Nord pour qu'elle démantèle tous ses sites d'essais nucléaires. Les pourparlers entre Trump et Abe ont eu lieu peu de temps après que hauts responsables du Nord et des États-Unis se soit rencontré à Panmunjom pour discuter de la possibilité d'un sommet. Trump et Abe ont également accepté de se rencontrer avant le sommet de Singapour. Les pas des États-Unis et de leurs alliés sont révélés ouvertement à travers la couverture médiatique. Ce qui reste inconnu est le mouvement nord-coréen avec son grand allié, la Chine. La Corée Nord ne reste certainement pas silencieuse avec les actions diplomatiques de Washington. Cependant, la Chine, en tant qu'allié nord-coréen, ne peut certainement pas se voir refuser sa position. Cher ami, c'était le commentaire.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « La guerre des Balkans a pris fin avec le traité de Londres le 30 mai 1913 ». La guerre des Balkans est un thème d'un conflit armé dans la péninsule des Balkans du 1912 au 1913. La guerre des Balkans était une querelle entre la Ligue des Balkans, à savoir la Serbie, la Monténégro, la Grèce et la Bulgarie contre l'Empire ottoman de la Turquie. Cette guerre est la première partie des guerres des Balkans dans la péninsule des Balkans visant à saisir la Macédonie qui était contrôlée par la Turquie. La guerre a pris fin avec la victoire dans la Ligue des Balkans par la signature du traité de Londres. En conséquence de cette guerre, l'Ottoman, qui est devenu plus tard la République de Turquie, a perdu la quasi-totalité de son territoire sur le continent européen, à l'exception de Constantinople et la région environnante. La guerre des Balkans, qui a pris fin le 30 mai 1913, a commencé quand les pays des Balkans, qui incluent la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et la Monténégro, ont formé une alliance pour conquérir la Roumélie, une région dans les Balkans qui était encore gouvernée par l'Empire ottoman. Lorsque l'Ottoman a réussi d'être vaincu, les pays venaient alors en conflit, même avec l'un et l'autre, en raison des différences dans le revenu sur le zonage, le résultat de la conquête. L'autre information est sur le décès du docteur Sutomo à Surabaya le 30 mai 1938. Docteur Sutomo est l'un des nombreux héros nationaux de la nation indonésienne. Il est une figure dans le mouvement nationaliste contre la domination coloniale néerlandaise. Docteur Sutomo était fondateur de Budi Utomo, l'organisation du premier mouvement en Indonésie. En 1903, Sutomo a pris l'étude de médecin à School for Opleiding van Inlandische Artsen Ustovia à Batavia. En collaboration avec des collègues de Stovia, Sutomo a établi une association nommée Budi Utomo en 1908. Après avoir été diplômé en 1911, il a travaillé en tant que médecin du gouvernement dans diverses régions à Java et à Sumatra. En 1924, Sutomo a fondé le Club d'études indonésiens en néerlandais, Indonesische Studieclub, à Surabaya. En 1930, il a fondé le Parti national indonésien et en 1936, Parindra ou Parti Indonesia Raya. Sutomo est mort à Surabaya, Java Est, le 30 mai 1938 et a été enterré au cimetière des Héros Surabaya. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. La Fédération internationale de football, FIFA, a donné la sanction de suspension contre l'Indonésie le 30 mai 2015. Cette sanction est la suite d'une querelle entre l'Association indonésienne de football, PSSI, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, Kemenpora. FIFA a sanctionné en raison que le gouvernement indonésien a intervenu contre le football dans le pays. L'Indonésie est le deuxième pays sanctionné par la FIFA après la Grèce, l'Iran, le Kenya, le Koweït, l'Éthiopie, Madagascar, le Pérou, Brunei Darussalam, l'Irak, le Nigeria et le Cameroun. La cause de l'imposition de sanctions contre l'Indonésie était très grande. L'équipe nationale indonésienne et l'ensemble de clubs de l'Indonésie ne peuvent pas participer à des compétitions officielles de la FIFA et de l'AFC. L'équipe nationale indonésienne ne pouvait pas rivaliser sur la scène internationale au cours de la période de suspension, sauf l'équipe nationale dans les SEA Games 2015. Les clubs locaux ne peuvent pas suivre aussi la concurrence internationale et Persipura ne pouvait pas faire le jeu continu dans l'arène d'AFC contre Pahang Football Club. Les joueurs étrangers ne peuvent pas jouer au club local. La sanction de la FIFA était levée le 13 mai 2016. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et l'Union européenne augmentent leur exportation et la coopération industrielle ». L'Indonésie continue d'élargir son marché d'exportation de produits industriels à la région l'Union européenne. Le ministre indonésien de l'Industrie, Erlangga Hartarto, après avoir reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, au ministère de l'Industrie, Jakarta, a mentionné vendredi plusieurs produits manufacturés nationaux qui ont augmenté la valeur de ses exportations vers des pays européens sont entre autres les boissons, les textiles, les vêtements et les chaussures, ainsi que l'huile de palme et ses dérivés. Erlangga Hartarto a déclaré que l'économie de l'Indonésie et de l'Union européenne avait été en synergie jusqu'à présent. En outre, la concurrence des produits entre les deux parties est différente pour pouvoir se compléter. Le ministère de l'Industrie a noté que la valeur totale du commerce entre l'Indonésie et l'Union européenne en 2017 a atteint 25,2 milliards de dollars américains. Les exportations indonésiennes vers l'Union européenne sont d'un montant de 14,5 milliards de dollars américains et les importations environ 10,7 milliards de dollars américains, ce qui représente un excédent de 3,8 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, la valeur des investissements de l'Union européenne en Indonésie en 2016 s'élevait à 2,6 milliards de dollars dans 2813 projets. Dans les efforts d'améliorer la coopération économique bilatérale, le ministre Erlangga encourage également l'accélération du règlement global des négociations de partenariat économique entre l'Indonésie et l'Union européenne, IEUCEPA. La quatrième négociation s'est tenue en février à Surakarta, Java Central. La cinquième négociation aura lieu en juillet à Bruxelles, en Belgique. En outre, le ministre Erlangga encourage activement une coopération accrue entre les hommes d'affaires des industries nationales et ceux de l'industrie dans le pays de l'Union européenne. L'expansion de cette coopération, par exemple, dans le secteur de l'industrie de transport aérien entre PT Dirgantara Indonesia et Airbus. Erlangga a déclaré que PT Dirgantara Indonesia, UDI, fournissait plusieurs composants d'avions pour soutenir la production d'Airbus, tels que les avions militaires d'Airbus EADS, Chasa C295 et les hélicoptères Airbus. La même chose a été prononcée par l'ambassadeur Vincent Guérin. Il a affirmé que certaines pièces de récence d'Airbus avaient été fabriquées à Bandung ou PTDI, puis envoyées dans le monde entier par le biais d'Airbus.
25 gérants également déclarés que la délégation de l'Union européenne, composée de 50 entreprises, se rendra en Indonésie en octobre pour offrir un concept coopératif appelé économie circulaire, en plus d'explorer la coopération dans le secteur industriel. Guérin a expliqué que cette économie circulaire est un nouveau concept qui est encouragé en Europe dans le but de réduire les déchets et augmenter le recyclage des déchets. Serviteur, c'était Vendonésie pour ce soir. Chers auditeurs, voici donc le rappel du titre de l'actualité.
L'Indonésie est optimiste et élue en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le concept Indo-Pacifique sera discuté lors de la visite bilatérale du Premier ministre Narendra Modi. Les priorités de l'Indonésie si elle est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. 60 policiers philippins apprennent l'indonésien. L'état unitaire de la République d'Indonésie est final.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/FRENCH.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun.
We deserve to be the one and fight your fears. Come on,
don't waste
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme en Tunisie dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à voyager en Papouasie pour visiter le hameau de Sko. Restez toujours avec nous, la Voix de Tunisie, le service international de RRI. Outre par les heures écoutes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voynews.id. Le hameau de Sko est situé à la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, précisément dans le district de Muara Tami, dans la ville de Jayapura, en Papouasie, en Indonésie. Le district de Muara Tami se compose de trois hameaux, à savoir Sko Yambe, Sko Sae et Sko Mabo. Pour accéder à l'emplacement de la ville de Jayapura à une distance d'environ 46 km, on prend environ 1h30 jusqu'à 2h en voiture. Serviteurs, le hameau de Sko est chaud et sec. Pour cette raison, beaucoup de gens choisissent de déménager à Jayapura. Mais le paysage de hameau de Sko a été changé pour être belle. Le poste de la frontière de l'État qui est plus luxueux et aussi la porte de la frontière devient l'endroit préféré de peuples indigènes ou de touristes qui visitent ce lieu. Serviteurs, outre le selfie à la poste et à la porte de la frontière, une autre activité peut être menée au hameau de Sko. Au hameau de Sko Yambe, vous pouvez voir la conservation des tortues. Depuis le milieu de l'année 2017, le village de Sko Yambe est devenu l'objet touristique de la tortue. En plus d'empêcher l'extension de la tortue, c'est aussi augmenter l'économie locale. Aujourd'hui, les touristes qui visitent peuvent voir et cultiver la tortue en commençant par le processus de capture, de ponte, d'éclosion jusqu'à la libération dans l'océan. Serviteurs et serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le hameau de Sko en Papouasie ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir chers amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence de développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est membayar taksi. Je répète, membayar taksi, qui signifie payer le tarif de taxi. Allons-y. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Membayar taxi » ou « Payer le tarif du taxi ». L'emplacement, la rue Garuda. la situation? Tony arrive devant la maison de Yoko. Tony a payé le tarif du taxi ou le prix du taxi.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40 ribu.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Membayar taxi ou en français, payer le tarif du taxi. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et vous pouvez les répéter après moi. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Qui signifie on est déjà arrivé. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Qui signifie combien ça coûte le tarif? 40.000 rupiah. 40.000 rupiah. Qui signifie 40.000 rupiah. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya. Voici l'argent. Le reste est pour vous. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Qui signifie merci, monsieur. Lorsque vous allez en taxi en ligne, le tarif du taxi est déjà montré dans l'application. Mais vous pouvez demander s'il y a un changement de prix ou non. Vous pouvez poser des questions. Berapa ongkosnya? Je répète. Berapa ongkosnya? Qui signifie combien coûte le tarif? Lorsque vous payez le tarif, si vous pouvez donner un pourboire au chauffeur, dites ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. Ou ambil saja uang kembaliannya. Ambil saja uang kembaliannya. Qui signifie prenez le reste. Par exemple, Tony. Ini uangnya. Ini uangnya. Voici l'argent. Sopir. Maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas? Maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas? Excusez-moi, je n'ai pas de petit argent pour le reste. Vous avez l'argent approprié? Tony. Ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. En français, le reste est pour vous. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40 ribu.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voinews.id. il y aura un prix intéressant pour un expéditeur sélectionné. L'exercice est décrivez un lieu touristique dans votre pays en mentionnant le nom du pays, le nom de l'attraction touristique, l'emplacement et la météo de cet endroit. Si vous voulez présenter plus d'informations, s'il vous plaît. Par exemple, Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Chers amis, on se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les amis de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine culturel. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons religieuses indonésiennes. Pour commencer cette édition, écoutons la chanson du groupe ST12 dont le titre est « Kebesaranmu » ou en français « Votre grandeur ». Bonne écoute!
Segala hidup dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar. Memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua. Kau besaranmu Tuhan.
Voilà la chanson sans titre Kebesaranmu par le groupe ST12. En 2012, ST12, un groupe vient de Bandung, a lancé la chanson Kebesaranmu dans l'album qui s'intitule Puspa Repekeg. Avec le rythme de pop Melayu, cette chanson contient une expression de gratitude à Dieu. Dieu est le donneur de vie, est le propriétaire du monde et de son contenu. En fait, dans cette chanson, Dieu est appelé comme le premier amour dans la vie. Chers amis, la chanson religieuse que nous allons écouter est « Kembali ke keagunganmu » ou « Retour à votre majesté » par Yunisara. Cette chanson raconte de quelqu'un qui a longtemps vécu dans le péché et oublier l'au-delà. En conséquence, la vie est difficile. Ensuite, cette personne s'ingénuit aussi devant le Tout-Puissant. Il perd pour son pouvoir et sa direction pour retourner sur la bonne vie. La chanson devient plus profonde quand elle est chantée par Yunisara, dont la voix est forte et distinctive. Bon, écoutons la chanson intitulée « Kembali ke keagunganmu » par Yunisara.
Ya Rabbi.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson religieuse de Yuni Shara. Nous avons encore deux chansons à écouter. Le titre de la première chanson est « Aku ingin surga » chanté par le groupe Papinka. Cette chanson raconte d'une personne qui a regretté tous les péchés qu'il a fait. Il a supplié le pardon et la direction pour qu'il soit sur le bon chemin et qu'il ait tenu à l'écart de toutes les punitions de l'enfer. Elle a été publiée en 2014 par Papinka, un groupe dont le nom est une abréviation d'une région en Indonésie. C'est Pangkal Pinang Bangka, Papinka. Chers amis, voici Papinka avec sa chanson « Aku ingin surga » ou en français « Je veux le paradis ».
Dosa yang kulakukan, sesal yang kudapatkan, hampa hidup yang kini kurasakan. Ku memohon ampunan hanya padamu Tuhan, kesalahan yang kulakukan di dalam hidupku. Sungguh ku merindukan kasih sayangmu Tuhan. Bila nanti ku pulang, surga yang ku inginkan. Ya Allah, sempurnakan hidupku, tuntun aku di jalanmu, jauhkan aku dari segala siksamu. Ya Allah, terimalah tobatku dari segala dosaku, ampuni aku yang telah melupakanmu. Kesalahan yang kulakukan di dalam hidupku, sungguh ku merindukan kasih sayangmu Tuhan. Bila nanti ku pulang, surga yang ku inginkan. Ya
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.